Les sentiers du sauvage. Vinciane Després dit : Je crois que les parfums des choses sont toujours adressés. Celui des fleurs, celui des arbres, et aussi toutes les marques que laissent les animaux. Les urines, les fesses, les phéromones. Ce sont parfois des invitations, mais on ne sait pas à qui elles sont adressées. On le sait quand quelqu'un accepte l'invitation. Parfois, ce sont juste des demandes d'attention. Je suis là, même si vous ne me voyez pas. Rencontre avec Francis Colli à Saint-Alvert.
Bonjour, je m'appelle Francis Colli. Je suis pisteur animalier, fondateur de l'association Je suis la piste en 2014 en Dordogne. Et voilà, pisteur, ça veut dire que je suis les traces des animaux. Et j'apprends aux gens à faire de même. Et donc il y a un jeu de mots avec le nom de l'asso, je suis la piste, c'est celui de suivre et c'est celui de être. C'est-à-dire qu'à force de suivre la piste, il y a un moment magique où on a l'impression de devenir l'animal que l'on suit. Alors où est-ce que je me sens le mieux dans la nature? C'est vrai qu'en Dordogne, il y en a pas mal de petits coins... des petits microcosmes qui ont des écosystèmes très particuliers. Et ce vraiment que j'aime bien, c'est des fois dans ces falaises de karst, on a des gros rochers qui sont tombés. Et là autour, il y a une sorte d'humidité ambiante qui reste un peu toute l'année, qui fait pousser ces fougères scolopendres et pas mal de mousse. Et ça, c'est des coins que j'apprécie beaucoup, ouais, ceci par exemple. Ah, mon histoire d'enfance avec la nature. Moi, je viens de Provence. J'étais pas mal dans les Alpes et sur le bassin méditerranéen. Donc, c'est deux natures complètement différentes, mais qui m'ont bien marqué. Mais je dirais que mon histoire d'enfance qui m'a le plus poussé dans le monde de la nature, on va dire, c'est les relations que j'avais avec mon grand-père qui me racontait toutes ces histoires de chasse de son époque. Et ces histoires de chasse, c'était pas réellement des histoires de chasse, c'était des histoires de pistage, en fait, j'ai réalisé plus tard. C'était toute l'approche qu'il avait de l'animal. Et l'histoire finissait toujours quand il mettait ses doigts en forme de revolver, il faisait même pas le bruit bang, c'est juste ça s'arrêtait, il mettait ses doigts comme ça et c'était fini. C'est-à-dire que toute la partie intéressante de l'histoire, c'était le pistage, tout ce qu'il y avait avant. Et c'est lui qui m'a montré les premières traces et qui m'a raconté les histoires secrètes, j'aime bien dire, des animaux. Donc je voyais à travers... alors au mieux c'était une belle empreinte, au pire c'était juste un petit scratch sur la terre, mais il arrivait à me faire visualiser dans ma tête le passage des animaux et leur vie, et le fait que c'était pas juste du gibier, mais que c'était des êtres vivants avec leur propres émotions, leur propre vie quotidienne, leur propre ressenti. Et je pense que c'est vraiment... Ça, c'était déterminant pour moi dans mon approche de la nature que j'ai aujourd'hui. Alors, notre biodiversité de proximité en Dordogne, je trouve qu'elle est plutôt très riche par rapport, je pense, au reste de la France. On est plutôt privilégié ici. Je pense que ça doit être dû à la topographie de la Dordogne. Il y a beaucoup de vallons, de creux, de bosses. C'est difficile de faire de l'agriculture intensive, donc ça nous sauve un peu, ça c'est bien. En termes de grands mammifères, on en a, je dirais, 4 ou 5. Quoi. On a les cervidés, les sangliers, des renards, des blaireaux. Mais si on va au-delà de ça, on se rend compte que si on va dans les plus petits mammifères, déjà c'est super riche aussi, tout ce qui est mustélidés, genettes, chats forestiers. Donc on a des animaux rares comme ça, des animaux qui recolonisent naturellement, comme la loutre, comme le loup même qui est en train de revenir. Et puis si on étend notre champ au-delà des mammifères, ça fait scintiller la richesse de partout. On a tout un tas de salamandres, d'oiseaux, de passereaux, d'insectes. Donc oui, notre biodiversité est très riche, elle est très fragile aussi, donc faut y faire attention. Et en tant que pisteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à voir les traces de la plupart de ces animaux, qui sont qui sont quasiment tous très farouches, qui ont peur de nous en fait, hein, on est le apex predator pour eux, ils nous fuient. Mais en voyant les traces, on peut se rendre compte de la richesse de cette biodiversité et on peut se rendre compte aussi des liens qui existent entre chacune de ces espèces et entre ces espèces et la flore et le paysage et les humains. Donc c'est un tissu de connexion qui est super riche, qui est super fragile aussi en même temps. Bah oui, clairement, la biodiversité est en danger, il n'y a pas photo. C'est pas foutu pour autant, hein, il ne faut pas baisser les bras. On a toujours une riche biodiversité. Quand on parle avec les anciens, on se rend compte qu'elle était différente. Elle était différente parce qu'on a certaines espèces, notamment de grands mammifères, qu'il n'y avait pas ici à l'époque des anciens. Tout ce qui est cervidé, ils n'en avaient pas. Donc il y a eu des mouvements de ces animaux. Par contre, tout ce qui est passereau, ça dégringole. Il faut y faire attention, il faut faire attention à notre impact, l'impact des humains, chacun bien sûr, mais aussi de façon plus large, l'impact qu'on a en général. On vit dans ce monde. En fait, moi ce que j'aime bien dire dans les ateliers pistage, quand je fais découvrir les traces des animaux, c'est au-delà de découvrir les traces des animaux, c'est de se rendre compte que ces animaux sont nos voisins. Et au-delà de ça, même que nous sommes des animaux. Et on fait partie de ce tout. On fait partie de toute cette biodiversité. Voilà, l'espèce humaine est une espèce animale. C'est un truc qu'on fait pas forcément bien rentrer dans nos têtes. On pense qu'on est au-dessus de tout ça et qu'il faut régler la nature, tout ça, mais on en fait partie. Donc ça me semble effectivement nécessaire de bien comprendre comment la nature fonctionne, comment la biodiversité autour de nous fonctionne. Bah, tout simplement parce qu'on en fait partie. Si on comprend pas ça, c'est comme si on a une cécité. C'est comme si on a des œillères de chevaux et on ne voit pas, on ne voit qu'à travers un tout petit spectre, simplement le monde anthropique, le monde que les humains ont créé pour les humains. Et si on ne comprend pas la biodiversité autour, on va commencer à en avoir peur, on va commencer à vouloir la dominer ou la maîtriser de façon illogique, basée sur la peur, basée sur des envies d'humains. Et au final, c'est pas bon. Alors qu'au contraire, dès qu'on la comprend, ça va être plus souple et ça va être mieux, tout simplement. Alors le métier de pisteur tel que je le vis en Dordogne, il est complètement connecté à la nature. Il ne peut pas se faire en dehors de la nature. En fait, des policiers qui enquêtent sont des pisteurs, mais sont des pisteurs dans le monde des humains, donc dans les villes. Si on considère que les humains font partie de la nature, les villes font aussi partie de la nature. Donc ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, à où s'arrête la nature ou pas. Mais si on prend le curseur, normal, ou le plus généralement admis, de dire que la ville, c'est pas vraiment la nature, c'est quand il y a des forêts, etc. Mon pistage tel que je le pratique, effectivement, c'est dans les forêts, c'est dans les prairies, c'est avec les animaux sauvages, c'est là où je me sens bien. Donc mon métier est ancré dans la nature de fait. Alors Je suis la piste est une association loi 1901, fondée en 2014, basée à Saint-Albert, donc en plein cœur du Périgord, de la Dordogne. Ça fait bientôt 10 ans que nous existons. On travaille sur 2 axes. Le premier, c'est de faire connaître le pistage au plus grand nombre et donc de donner des clés de connaissance de la nature. Le deuxième, c'est de créer des connexions avec les peuples premiers qui existent toujours. Donc pendant 7 années plus ou moins consécutives, parce qu'il y a eu le Covid, on a reçu des groupes aborigènes d'Australie. On les a fait venir ici et fait des échanges culturels bilatéraux, c'est-à-dire que eux montraient leur culture qui est la plus ancienne encore en vie, et nous on leur montrait notre faune, notre flore qu'ils ne connaissent pas, nos villages en pierre, nos petites églises en pierre, et bien sûr nos grottes ornées. Donc on a ces 2 axes, et effectivement on travaille beaucoup avec les enfants, notamment dans les milieux scolaires, périscolaires, en famille. Le pistage, il se trouve que c'est un une discipline qui est géniale parce que d'un côté, on a quasiment tous perdu cette finesse de connexion avec la nature pour savoir reconnaître une empreinte de chevreuil, de sanglier, ou même ne serait-ce que la voir. Hein, en fait, si on ne fait pas attention, on passe devant une magnifique empreinte de sanglier. Si on n'y fait pas attention, on la piétine, on ne la voit pas. Donc simplement, on ouvre les yeux des gens. Le pistage, c'est ce qui a créé la logique des humains, en fait, la cognition. Donc du coup, en contrepartie, le pistage, c'est super logique, c'est à la portée de tous. C'est à la portée des enfants, comme des adultes. Et comme les adultes ont perdu cette connaissance, ils sont au même niveau que les enfants. Donc d'avoir des groupes familiaux, c'est super, parce que tout le monde est au même niveau. En même temps, les enfants sont plus petits, sont plus rase-moquettes, donc ils ont des meilleurs yeux aussi, donc ils vont voir tous les détails. Les adultes, eux, ils ont plus tendance à regarder au loin les beaux paysages, tout ça. Et les deux sont intéressants, en fait, pour pister. Donc, quand on a des groupes familiaux, par exemple, ça se complète naturellement. Quand on a des groupes d'enfants, on se rend compte qu'ils sont passionnés très rapidement et qui se prêtent au jeu très rapidement et qui développent des logiques, des mécanismes logiques, intuitivement, naturellement. Et je pense que c'est bon, en fait, ça, pour tout le monde. Comme mon grand-père me le faisait à moi quand j'étais petit, ce qui me fascinait, c'était les histoires. Plus que les traces elles-mêmes, hein, les traces elles-mêmes, c'était sympa, tout ça, mais de se rendre compte qu'il y avait des histoires derrière. Je pense que nous, autres humains, on est faits pour écouter et raconter des histoires. Et de se rendre compte que les traces sont quelque part la toute première écriture, l'écriture naturelle de base, et qui raconte les histoires de tous ces animaux qu'on ne voit pas. Moi, ça m'avait fasciné en tant qu'enfant, et je suis persuadé que si ça m'a fasciné, ça continuera de fasciner les autres enfants. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire avec les enfants, c'est au-delà de leur apprendre une sorte de technicité du pistage, c'est leur faire palper la sensibilité du pistage et leur raconter les histoires à travers ce qu'on voit, même si c'est pas grand-chose, même si c'est des toutes petites histoires, mais qu'elles aient une part de vérité, parce que c'est ancré dans ce qu'on voit réellement de la trace. Déjà, j'ai vécu un moment assez magique avec Dinawan, qui est un copain aborigène, avec qui on a visité des grottes locales, et notamment Lascaux 2. Donc depuis Lascaux 4, Lascaux 2 était devenu à un moment donné un endroit où ils s'enregistraient de la musique, avec les Lascaux Sessions. Et donc ils avaient enregistré Dinawan, qui jouait le didgeridoo dans Lascaux 2. Et bien sûr, il a eu droit à sa petite visite. Enfin, il était comme ça, en train de regarder les peintures, mais en mode, nos peintures à nous, elles sont plus anciennes. Enfin, voilà. Donc ça n'avait pas l'air de trop l'épater. Mais à la fin, il s'est arrêté et il a dit, là, il y a un arbre. Tout naturellement, il a dit, là, il y a un arbre. Et on a tous regardé, comme ça, le guide a regardé. Il nous a montré, il a fait, là, il y a un arbre. Et le guide a fait, mais ouais, il y a un arbre, effectivement. Ensuite, je suis allé faire mes petites recherches, du coup. C'est quelque chose qui avait été vu par des préhistoriens il y a très longtemps, et puis qui avait été, semble-t-il, oublié. Personne ne parle de cet arbre. Mais j'ai trouvé effectivement magique qu'il y ait cet aborigène avec une autre façon de voir les choses qui arrive et qui voit un arbre dans un bestiaire préhistorique dans lequel il n'est pas supposé y avoir d'arbre. Je pense qu'il y a clairement une bascule entre les chasseurs-cueilleurs et les éleveurs-agriculteurs. Un changement de paradigme ou de façon de voir le monde. Un chasseur-cueilleur, il est forcément animaux parmi les animaux. Il est très souvent aussi proie, il n'est pas forcément que prédateur. Hein. En Afrique, ils se font manger par les lions, par les léopards, toujours. Et les animaux ne lui appartiennent pas, et la nature ne lui appartient pas, c'est lui qui appartient à la nature. À partir du moment où on devient agriculteur, on maîtrise la pousse des plantes et on devient éleveur, on maîtrise la naissance de ces animaux. Et les animaux nous appartiennent, les plantes nous appartiennent. Donc on change complètement de rapport au monde et on va mettre des barrières pour empêcher aux animaux de se sauver ou empêcher les autres animaux de venir brouter ce qu'on s'est fait suer à faire pousser. Donc ouais, il y a une bascule. Et là, notamment en Afrique, on voit bien les différences de mentalité entre les bushmen qui sont toujours chasseurs-cueilleurs et les autres peuplades, les autres ethnies africaines qui étaient déjà éleveurs, agriculteurs, avant même l'arrivée des Blancs là-bas. Donc ils ont eu deux vagues d'agriculteurs éleveurs qui sont allés les repousser jusque dans le Kalahari. Mais on a vraiment cette différence de mentalité qui est fondamentale. Et c'est vrai que bah, j'ai tendance à bien aimer cette mentalité première de chasseur-cueilleur. On va continuer avec Je suis la piste de ouvrir les yeux et de faire émerveiller les enfants et les familles sur tout ça, parce qu'il faut absolument, et que c'est super kiffant en fait, ces moments-là où les yeux brillent et on voit que leur regard change. Mais il y a aussi un autre pan qu'on développe avec l'association qui est de redonner une utilité sociale au pistage. Ça fait un an et demi qu'on a créé un groupe qui s'appelle Périgord Pistage et dont le but c'est de redonner donc une utilité sociale au pistage. On fait des rapports sur les qu'on remet en gendarmerie sur les animaux d'élevage qui se sont échappés, ceux qui ont été tués par des grands canidés, savoir si c'est des loups ou pas. On travaille avec le CIVAM, qui est un groupe d'éleveurs de brebis dans la Double, dans l'ouest du département, sur le retour du loup pour que ça se passe bien. On travaille avec Cœur de Forêt, une association qui fait des diagnostics forestiers. Nous, on fait un pan de détection faune, c'est-à-dire qu'on dit aux gens qui sont leurs voisins sauvages et comment mieux vivre avec eux. Alors on aimerait bien travailler sur le retour de la loutre et sur les empreintes en grotte. Ça, c'est encore deux axes qu'on veut développer. Donc, on a plein de profils. Il y a une vingtaine de pisteurs là, qui sont formés depuis un an et demi à ça. Donc, on a cette sorte de partie active du pistage. Et parmi eux, il y a tous les profils. Et il y en a certains qui veulent aussi devenir animateurs nature pour les enfants ou pas, selon leur profil, en fait. Avec plus d'affût ou plus de... ou plus sur la préhistoire, ou plus chacun ayant ses affinités. Donc voilà, tous ces gens vont rentrer dans l'assaut, vont devenir des nouveaux animateurs, et ça va permettre à l'association de diffuser encore plus largement un plus large public au niveau géographique, parce que tout le monde est basé un peu à différents endroits de Dordogne, et aussi sur différents publics. Ben voilà, juste là. Alors on dirait rien du tout ça. Mais si je vous montre que là il y a un doigt, là il y a un doigt. Et là devant, il y a une marque de griffe ici. Vous voyez le petit trou là ? Mm-hmm. Vous voyez ce doigt là ? Les autres sont là, on les voit pas bien. Là il y a le coussinet palmaire. Et ici aussi, doigt. Et là c'est la patte arrière. Donc ça c'est patte avant, patte arrière. Et on voit pas grand chose. Souvent, on voit pas les empreintes aussi bien que ce qu'on les voit dans les livres. Hein. C'est très rare qu'on arrive à voir ça. Mais on voit juste des sortes de parties d'empreintes. Donc il faut former son œil. Déjà savoir quel type d'animaux il peut y avoir par ici, pour en éliminer tout un tas. Et ensuite former son œil pour savoir ces bribes d'indices, à quelle autre empreinte ça pourrait nous faire penser. Donc là, c'est le coussinet ici, et là on a les pelotes, et les pelotes on voit que ça part sur une sorte de d'arc très léger. C'est pas un canidé en fait, les canidés ça va faire un arc beaucoup plus accentué, et on a ces griffes là qui confirment qu'ils sont bien loin devant. Ça c'est un fouisseur, ça c'est le blaireau qui est parti donc dans cette direction par là-bas. Donc on va aller voir si on en voit d'autres un peu plus loin. Ici, doigt. Il y en a un autre là, mais on voit bien ces deux-là qui correspondent à ces deux-là. Et ça, c'est le coussinet. Coussinet, ça correspond à cet endroit où les doigts se rejoignent. Là, ces chiens, c'est bien plus lourd déjà. C'est un gros chien. On a la patte arrière qui est ici, avec 1, 2, 3, 4, qui est venu marquer par-dessus la patte avant. Donc ça, c'est un autre truc de logique dont on parlait tout à l'heure. Des fois, on voit deux empreintes superposées ou côte à côte. Ben voilà, c'est des quadrupèdes, hein, donc il y a toujours un moment où la patte arrière, du même côté, va marquer sur ou à côté de la patte avant. D'ailleurs, pas forcément du même côté, parce que les chiens, leur stratégie pour éviter de taper les pattes arrière dans les pattes avant, souvent, c'est de marcher en crabe. Quand vous voyez un chien trottiner en crabe avec ses fesses qui partent d'un côté, c'est pas juste parce qu'il est ridicule, c'est pas pour se donner un style, c'est parce que c'est une façon pour eux d'éviter de taper les pattes arrière dans les pattes avant. Donc là, voilà, patte arrière qui marque par-dessus la patte avant, et la logique veut que la patte arrière marque par-dessus parce qu'elle est venue après la patte avant. Donc du coup, ben, on a des histoires maintenant. On a l'histoire du blaireau qui vient manger, possiblement l'histoire du chien qui a senti le blaireau et qui s'est mis à lui courir, enfin à courir après son odeur, un peu se courir après son fantôme derrière lui, et un chevreuil a priori qui est aussi passé là. Donc ils ne sont pas croisés, très probablement, tous ces animaux, mais ils étaient dans une fenêtre temporelle assez proche, quoi.